effectivement, les gens sont en train de prier, de revenir sur le chemin de la prière au travers des attentats. Hein? Que Dieu nous fasse la grâce d'apporter du réconfort aux gens et l'assurance que Dieu est là et s'occupe de la situation, même si, effectivement, il y a des victimes et beaucoup de blessés et que le grand why, pourquoi est-ce que tu permets ça, Seigneur, existe bien là. Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et finalement, que les âmes se tourneront vers Dieu. Vous savez, quand il y a trop de confort et quand tout va bien, et en Belgique, nous avons vécu des décennies où tout allait apparemment très bien, et beaucoup de gens se sont réfugiés dans les biens matériels, et finalement, beaucoup sont morts sans Christ. Alors, vous savez, la vie ici sur Terre, elle est courte. Hein. Alors, peut-être demain, on n'est plus là. Hein. Qu'il y ait une bombe pas loin d'où on est, ou pas. Hein. Dieu peut nous protéger aussi. Hein, mais on peut mourir bêtement d'une maladie quelconque ou d'un accident. Alors, nous savons que Jésus revient bientôt. C'est peut-être tantôt. Hein, il faut être prêt. Peut-être dans quelques heures. Soyons prêts. Hein, que ce soit la mort qui nous surprenne, que ce soit Jésus qui revient, eh bien, que nous soyons toujours prêts. Vivons aujourd'hui comme si c'était le dernier. Et de cette manière-là, nous n'aurons rien à regretter. Je crois que c'est important. Hein? Alors, ce matin, je voudrais vous parler de ce que nous apporte le sacrifice de Jésus. Pourquoi Jésus est-il mort sur une croix? Et qu'est-ce que ça produit pour nous? Enfin, on n'aura pas le temps d'expliquer tout. Hein. S'il fallait expliquer dans les détails tout ce que ça procure, il nous faudrait une semaine d'enseignement minimum. Hein. C'est presque tout le collège biblique. C'est des cours. Vous savez, vous avez des cours spécialisés sur l'expiation, l'étude du salut lui-même, comment Dieu nous sauve, etc. C'est vraiment un cours. C'est beaucoup de choses. Donc, ici, on ne va pas faire un cours. Jésus a porté notre péché. J'ai mis un tableau de Marc Chagall que j'aime beaucoup, hein, qui a vécu pendant la Première Guerre mondiale, d'une famille juive en Russie. Marc Chagall qui a peint souvent la croix de Jésus avec un monde tourmenté, un monde désordonné, des désordres de guerre, de destruction, de crainte, de peur. Il a vécu ces moments horribles, vous savez, la révolution en 1917. Et puis la Première Guerre mondiale, etc. Et puis, depuis le début de l'humanité, le péché de l'homme n'a jamais arrêté. Hein. Quand on voit dans le Jardin d'Éden, premier péché, hein, le serpent qui trompe la femme, Adam et Ève pêchent devant Dieu, toute l'humanité est infectée par le péché, affectée et infectée hein, par le mal. On voit les mecs qui dit pour ma meurtrissure je tuerai 7 personnes. Ce sera ça. Et donc on voit que le mal est disproportionné et c'est pour ça que la loi nous dira œil pour œil, dent pour dent pour ramener les choses à quelque chose de plus juste. Et puis Jésus ira plus loin, c'est d'aimer nos ennemis et de leur pardonner et de leur faire du bien. Et donc, le mal s'est empiré sur la terre. Hein. Au jour de Noé, on le voit. Et Dieu voyait que les hommes n'avaient aucune pensée, aucune crainte pour Dieu. Ils vivaient comme si Dieu n'existait pas. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens vivent comme si Dieu n'existait pas. Et même, ils le proclament. Hein. Et donc, forcément, le péché, c'est quelque chose qui mine l'humanité depuis le départ, qui est destructeur au possible, qui nous a privés de la vie avec Dieu pour toujours. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie par lequel on pouvait vivre éternellement. Malheureusement, il y a eu un choix malheureux. Le choix malheureux a été une perte, a été une catastrophe pour l'humanité. Et Dieu n'a jamais arrêté de penser à un moyen de salut parce que Dieu aime l'humanité. Dieu aime sa création. Et dans Genèse 3:15, il avait prévu que le Fils de l'homme, aurait la victoire sur le diable, qui a mordu au talon quelque part Jésus sur la croix, et le diable s'est bien moqué de Jésus. Il s'est dit, ça y est, je l'ai eu. Je l'ai eu cette fois-ci, je l'ai eu, je l'ai bien eu. Mais Jésus est ressuscité 3 jours plus tard. C'était une victoire totale, extraordinaire sur le péché, sur le diable, sur tout ce qui nous fait la guerre. Jésus-Christ a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos fautes, il a tout pris sur lui. Il a tout pris sur lui. De même que le souverain sacrificateur porte le peuple sur son cœur. Vous savez, le pectoral sur lequel étaient enchâssés les 12 pierres précieuses qui représentent les 12 tribus d'Israël. Jésus, notre bon berger, nous porte sur ses épaules. Il porte le poids aussi. Il a porté sur la croix le poids de nos fautes. Et c'est extraordinaire. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pas de pardon sans effusion de sang. Pas de pardon. Et donc, depuis l'Ancien Testament, on le voit, Adam et Ève, ils ont été revêtus d'un habit de peau. Donc, il y a eu un sacrifice. Et c'est toujours au travers d'un sacrifice qu'il y a eu le pardon, depuis le départ. Et on le voit aussi à la Pâque juive. La Pâque juive, qu'est-ce qui se passe lors de la Pâque juive? Eh bien, il y a l'offrande d'un agneau sans tache, sans défaut. Et c'est au travers de sa mort que le premier-né de chaque famille pouvait être sauvé. Et on voit avec le Lévitique tous les sacrifices qui étaient ordonnés pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. Et pour que le péché, en tout cas, ne soit pas ôté, mais couvert. Le péché était couvert. C'est pour ça qu'il fallait répéter les sacrifices constamment, les répéter parce que le péché était couvert. Le péché de l'homme était couvert. Et tout le monde ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Il y avait une classe, les Lévites, de la tribu de Lévi, bien sûr, et la famille d'Aaron, les sacrificateurs, et parmi les sacrificateurs était choisi le souverain sacrificateur qui officiait une fois par an, le jour du Yom Kippour, jusque dans le lieu très saint, nous l'avons vu vendredi, qui était là vendredi. Alors, c'était intéressant parce que en prérequis, il y a, je veux dire, ce qui avait été apporté lors de la Sainte Cène que j'ai apporté, ben, le voile déchiré. C'était quelque chose d'important qui aurait pu être intéressant pour vous de voir. Alors, Dieu a condamné, c'est l'image juste avant, hein, je pense, Dieu a condamné le péché dans la chair en offrant son Fils. Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Et quand est-ce que Dieu a condamné le péché dans la chair? Bien lorsque Jésus a été placé sur la croix. Et que Jésus a pris le poids de toutes nos fautes. Là, il y a eu la condamnation. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a rien à faire. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. On ne peut pas amadouer Dieu. On ne peut pas faire du copinage avec Dieu. Tu sais, j'ai fait ceci, mais je ferai ça, t'en fais pas. Je vais m'en sortir, je ferai autrement les choses. Non, il faut confesser son péché. Bien sûr, il y a la confession, il y a la foi, etc. Mais Christ devait accomplir cela. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et l'effusion de sang a eu lieu, et c'est Jésus lui-même qui a donné son corps, qui a donné sa vie. Jésus, le souverain sacrificateur, de la tribu de Judas cette fois, c'est pas de la tribu de Lévi. Souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, a offert sa victime, c'est-à-dire son corps, et l'a offert pour nous tous. Jésus est devenu par un acte divin péché à notre place. Il s'est fait péché à notre place, c'était extraordinaire. Non seulement il a porté notre péché, et non seulement il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21, il est devenu justice de Dieu pour celui qui croit en lui. Alors ici, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça nous rappelle cet épisode dans la loi de Moïse, où le peuple avait murmuré, et à cause de ces murmures, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont être mordus par des serpents brûlants dans le désert. Et donc, ils vont mourir sur place. Et Dieu va dire à Moïse, fabrique-toi un serpent d'airain, une espèce de bronze, qu'il va devoir pendre au bois, à une perche. Et tous ceux qui vont tourner les regards vers le serpent d'airain vont être guéris de leur morsure de serpent. Et sur cette perche, quelque part, c'est l'image de Jésus. Jésus qui a été fait péché pour nous. C'est ordinaire de dire le serpent, ce serait Jésus. Non, non, c'est parce qu'il a pris le poids de nos fautes qui nous condamne. Le poids de nos fautes. Il a pris, je veux dire, le venin du malin qui nous avait mordu. Le péché qui était entré dans nos vies, qui nous avait sali, un peu comme le levain qui fait gonfler la pâte, le poids des fautes qui ont tellement endommagé nos vies, et il a pris toutes ces fautes, cette multitude de fautes, et par un seul acte de justice, il nous en a libérés. Nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Et Jésus a dû crier un cri terrible, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a été abandonné sur la croix, lui qui n'a jamais été abandonné, parce qu'il n'a jamais commis une seule faute. Il a toujours été dans une communion parfaite, ce que nous n'avons pas toujours eu. Mais lui, il avait une communion parfaite avec le Père. Et là, il a senti une solitude épouvantable sur la croix. Pourquoi, Père, m'as-tu abandonné? Il sait ce que c'est, cette solitude, que nous avons vécu dans le péché, et afin que nous ne soyons plus jamais seuls, mais qu'il soit toujours avec nous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est devenu péché pour nous. Il a pris notre malédiction. Il est devenu malédiction pour nous, afin que nous recevions la bénédiction promise. La bénédiction d'Abraham, qui concerne toutes les familles de la terre, c'est-à-dire la nôtre en particulier. Mais il fallait qu'il reçoive, qu'il prenne la malédiction. Maudit quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il a accompli la loi parfaitement. Et il y avait une malédiction associée au fait de ne pas respecter toute la loi. Mais lui, comme il a accompli la loi à notre place, en croyant en lui, nous recevons sa justice. Et nous recevons sa bénédiction. Galates 3:13, la condamnation du péché dans le corps de Jésus nous donne la bénédiction pour l'éternité. Extraordinaire, nous recevons la bénédiction pour l'éternité. Alors le sacrifice de Jésus est volontaire. Il s'est sacrifié volontairement. Vous savez, dans le jardin de Gethsémani, une parole formidable de Jésus, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que quand on souffre, quand l'heure devient terrible, quand les moments précèdent de plus grandes souffrances encore, il est peut-être temps d'étaler. Il est peut-être temps de fuir. Hein, c'est ce que Paul, on lui disait, Paul, attention, Paul, si tu vas à Jérusalem, tu vas souffrir beaucoup. Hein, Agabus qui était venu le prévenir avec une ceinture, tu vas souffrir beaucoup. Et il aurait pu s'enfuir en disant, waouh, je vais surtout pas partout où je vais aller, mais sauf à Jérusalem. Mais non, Paul, il a dit non, je vais y aller, c'est le plan de Dieu. Je vais descendre jusqu'à Jérusalem. Et je vais souffrir, c'est vrai. et puis je serai, oui. Eh bien, Jésus aussi, Pierre voulait, lui avait dit à un moment donné, mais ça ne t'arrivera pas, ça ne t'arrivera pas. Et non, nous sommes là, nous allons te protéger, faut pas croire. Non, tu ne mourras pas sur une croix, non, tu vas pas mourir. Mais arrière de moi, Satan, dit Jésus à Pierre. Il avait confessé qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que c'était pas de l'homme que ça venait, mais ça venait de Dieu. Et Pierre, le même Pierre, qui dit des paroles qui sont complètement à côté de la plaque, pas seulement cela, mais qui viennent du malin. Et Jésus, et là il y avait aussi l'ennemi, hein. Je peux vous assurer, dans le jardin de Gethsémani, il éprouvait des angoisses épouvantables, il savait ce qu'il allait souffrir. Il savait très bien, il l'avait déjà expliqué aux disciples, mais il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. Et là, il est là, c'est son heure, c'est l'heure de vérité, c'est l'heure des ténèbres surtout. Mais c'est l'heure de vérité pour Jésus. Et là, il fait un choix. Nous avons aussi des choix à faire. Des fois, c'est plus facile de décamper, c'est plus facile de fuir la volonté de Dieu, quand on sait qu'on va souffrir. Mais Jésus reste. Jésus sait qu'il doit passer par là. Et il choisit volontairement. Lui a choisi volontairement de passer par la mort pour nous. Il aurait pu appeler des légions d'anges et ils seraient venus pour le délivrer des Romains, de la puissance étrangère, des Juifs qui voulaient lui faire la guerre, etc., qui lui faisaient du tort, qui voulaient le faire mourir. Il aurait pu être délivré, mais il n'a pas lever le petit doigt pour faire appel aux anges. Les anges sont quand même venus, hein, pour le fortifier. Il serait mort dans la prière d'intercession dans le jardin de Gethsémani. Des anges vont venir le soutenir. Parce que sa motivation est bonne. Sa motivation est juste. Parce qu'il veut aller jusqu'au bout. Et Dieu le fortifie dans le jardin. Et Jésus dit ceci, personne ne m'ôte la vie, personne ne m'ôte la vie. Vous croyez ça, qu'on va m'ôter la vie? Non, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Cette possibilité devant lui jusqu'au bout, il pourrait dire j'arrête. Mais jusqu'au bout, il dira, je suis venu, Seigneur, pour faire au Dieu ta volonté. Et les passants blasphémaient contre lui, secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Ils disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Les passants blasphémaient contre lui. Blasphémaient. Contre le Fils du Dieu vivant. Ah, c'était plus celui qui fait des miracles, qui guérit les gens, qui multiplie les pains et les poissons, qui ordonne à la mer de se taire, ou à la tempête de se calmer. C'est un homme qui est crucifié. On ne reconnaît même plus son visage. On a frappé sur son nez. On l'a flagellé. C'était vraiment un bain de sang, une boucherie. Il était méconnaissable, rempli de sang, pratiquement nu. C'était comme une honte, avoir peur de le regarder. Et les gens blasphémaient contre lui, l'injuriaient. Bien sûr, Jésus aurait pu descendre de la croix, bien sûr. Même dans cet état-là, il aurait pu descendre de la croix. Nous aurions alors été perdus, mais il a pensé à ton salut. Extraordinaire. Il a pensé à ton salut, à mon salut. Il a pensé à nous. C'est pour ça qu'il n'est pas descendu de la croix. Par orgueil personnel en disant, il se croit où là? Je vais le remontrer moi. Non, jamais, non. Parce qu'il savait qu'il devait aller jusqu'au bout. Il devait aller jusqu'au bout. Le don volontaire de Jésus doit inspirer notre don volontaire. Si lui s'est donné volontairement, nous aussi, nous avons à nous donner volontairement, à offrir notre louange, Était étonné qu'il y avait si peu de louanges ce matin. Quel est notre don? Quelle est notre part dans le don volontaire? Jésus, il a été jusqu'au bout de lui-même. Jusqu'au don total de sa vie. Alors, le sacrifice de Jésus, il est substitutif. Qu'est-ce que c'est de ça, substitutif? Ça veut dire qu'il est mort à notre place. À la place du pécheur que nous sommes, il est mort à notre place, il s'est fait victime à notre place, l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. À notre place, il s'offre. C'est nous qui étions condamnés, en fait. C'est pas lui. Lui, s'il voulait, il ne serait jamais descendu sur la terre, il n'y aurait pas nécessairement besoin, parce que pour lui-même, ben, il était bien dans la gloire, non? Extraordinaire, hein? Ou ce que vous voulez d'autre être trop aussi bien? Dans la gloire, c'est là où nous irons bientôt, hein? Quoi qu'il se produise à Dieu sur la terre, si nous croyons en lui, que nous espérons en lui, que nous continuons à l'aimer jusqu'à la fin de nos jours, c'est là que nous irons. C'est extraordinaire. Mais il a accepté de descendre, il savait ce qu'il allait souffrir. Il savait ce que les hommes allaient lui faire. Comment les gens allaient le haïr. Comment les gens allaient le mépriser, l'abandonner. Il savait tout cela, mais par amour, il a accepté. Il a accepté. Alors, que nous puissions nous donner à Dieu volontairement aussi. Lui rendre tout l'honneur et toute la gloire. Il est mort à ma place. Ésaïe 53, verset 5, dit ceci, « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, transpercé à cause de mes crimes, écrasé à cause de mes fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Extraordinaire. Ça, c'est l'identification. Il s'est identifié à la race humaine, à l'humanité, et il a pris la place de l'humanité. En fait, c'est l'humanité qui aurait dû être clouée sur une croix. Chacun de nous. Nous avons crucifié Jésus. C'est pas seulement les juifs, les chefs juifs. C'est pas seulement les romains. C'est nous, par nos péchés, par nos fautes, qui avons crucifié le Christ. C'est nous qui aurions dû prendre cette place, mais c'est lui qui a pris notre place. Et le diable ne pouvait rien lui reprocher en regardant la croix. Extraordinaire. Jésus disait, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Jésus, tu es mort à ma place. Alors le sacrifice de Jésus est rédempteur. Qu'est-ce que ça veut dire la rédemption ? Qu'est-ce que c'est la rédemption? Bien, la rédemption, c'est le rachat. Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre par le sang précieux de Jésus. Nous avons été rachetés. Ça veut dire que, premièrement, nous appartenions déjà à Dieu. Mais, quelque part, c'est comme si on avait vendu notre âme au péché. Nous sommes devenus esclaves de notre péché qui a été plus fort que nous. C'est ça le problème. Nous avons perdu le contact avec Dieu. Nous avons perdu la connexion avec Dieu. Nous sommes perdus, égarés dans nos fautes. Et nous sommes devenus esclaves de ce qui a triomphé en nous, c'est-à-dire le péché. Et Jésus a donné une rançon, la rançon de son sang, pour nous purifier. Le verbe gal et le nom correspondant Goël, traduit respectivement en français par racheté et rédempteur, selon la Torah, loi de Moïse, si quelqu'un perd son héritage à cause d'une dette ou qu'il se vante comme esclave, lui et ses biens peuvent être rachetés par un proche parent qui fournirait le prix de la rédemption. C'est la rançon, hein. Bon, c'est avec Ruth, par exemple, Ruth qui avait perdu son mari qui était Moabite, et donc elle pouvait faire en sorte que, eh bien, le fils de Naomi qui était mort, sa propriété, la part d'héritage, puisse revenir en Israël via le fait que Ruth se marie avec un Israélite. Si dans ce cas, cet Israélite est d'accord et de la prendre pour épouse, cet Israélite devait faire partie aussi de la famille. Et donc, c'était pour faire rentrer la possession dans l'héritage et qu'il ne soit pas comme cela, cette propriété puisse rester. Ça, c'est moins important que le fait que Ruth a été rachetée par Boaz. De même, Jésus a payé une rançon, son sang, à Dieu pour que nous lui appartenions. Voilà, il y a une rançon qui a été donnée. Une rançon qui a été donnée afin que nous appartenions à Dieu. Et on le voit aussi, acte 20-28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » En fait, donc, l'Église lui appartient, Jésus a payé par son sang le rachat de tout un peuple qui s'appelle l'Église. J'aimerais bien aussi de dire ceci, c'est que nous appartenons deux fois à Jésus, à Dieu. Dieu nous avait créés, il est notre créateur, donc on y appartenait, hein. On n'a jamais appartenu au diable. Le diable nous a volés, nous appartenions au royaume des ténèbres, sans savoir, c'est l'ennemi qui nous a volés. Au travers du péché, nous sommes tombés sous son emprise. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter de la malédiction de la loi, la malédiction associée au péché, afin que nous appartenions, hein, nous lui appartenions. Donc, c'est deux fois qu'il a payé. Et nous lui appartenions, il avait déjà tout fait pour nous, mais il a donné son Fils, Dieu a donné son Fils afin que nous puissions être rachetés de l'esclavage du péché. Hein, et la Pâque, c'est toute la signification de la Pâque juive, en fait. Hein. La Pâque juive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le passage de l'esclavage à la liberté. Et au travers de Jésus, il nous fait passer de l'esclavage. Nous étions comme des esclaves en Égypte, vendus sur une place au marché, et Jésus est venu, il a donné son sang, et il nous a repris pour que nous lui appartenions. Nos liens ont été détruits, nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres en Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. » Vous avez été racheté à grand prix, et le grand prix, c'est le sang du Christ. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Hébreux 9, verset 12, dit ceci, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste. Hein, s'il y a eu des sanctuaires sur la terre, ils sont de toute façon obsolètes à partir du moment où le voile a été déchiré, on l'a vu vendredi. Et il y a le tabernacle céleste où Christ officie encore maintenant et son sang parle mieux que celui d'Abel. Son sang est celui qui officie encore au ciel à notre égard, pour nous. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Il est venu non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est comme ça qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Nous sommes la propriété du Christ. Nous faisons partie de la famille élue, une nation sainte, de sacrificateurs, un royaume extraordinaire. Nous sommes la propriété du Christ, non seulement sur la terre, mais pour l'éternité. Alors, je dois me rappeler que je suis propriété du Seigneur. J'ai été lavé de mes fautes. Il a même mis un cachet sur nous. Il a gravé son nom sur nous, mais son esprit est venu en nous. Il a mis le sceau. C'est un sceau. Hein, l'Éphésien, des Éphésiens nous parle que le Saint-Esprit est comme un sceau qui marque l'appartenance à qui nous appartenons. Nous appartenons à Christ. Si nous avons l'Esprit, nous lui appartenons. Si nous n'avons pas l'Esprit, nous ne lui appartenons pas. Mais quand nous avons l'Esprit dans nos vies, l'Esprit Saint, nous appartenons au Seigneur. Extraordinaire. Et si nous appartenons au Seigneur, là où il est, nous y serons, parce qu'il, nous sommes sa propriété, nous lui appartenons. C'est extraordinaire de dire comme ça, alors que nous avons la liberté aussi. De quelque part, nous sommes propriété du Seigneur, à partir du moment où on s'est donné au Seigneur. Donc, on lui appartient vraiment, mais nous devons faire attention à vivre d'une manière cohérente par rapport au message de l'Évangile. Donc c'est toujours un don volontaire, comme on l'a dit tantôt, mais nous lui appartenons, ça veut dire que où qu'il soit, nous y serons aussi. Et il nous prépare une place afin que nous y soyons. C'est pas une demi-vérité, c'est une vérité entière, puisque nous lui appartenons. Puisque nous lui appartenons. Nous sommes la propriété du Christ, non seulement sur la terre, mais pour l'éternité. La mort, la résurrection, l'ascension du Christ nous parle d'un rachat éternel. Nous sommes rachetés pour l'éternité, c'est pas pour un moment, parce que j'y crois aujourd'hui, que demain j'aurai peut-être un doute. Non, j'ai pas à avoir. De toute façon, le doute, je dois le combattre dans ma vie. Il est avec moi. Et il ne peut en être autrement. À moi aussi. De participer à mon salut avec crainte et tremblement de cœur, à m'approcher de Dieu tous les jours, à rechercher la sanctification sans laquelle nous ne verrons pas le Christ. On ne verra pas Dieu sans la sanctification. Mais puisque nous avons l'Esprit, c'est par l'Esprit que ces choses vont s'opérer. Alors continuons à vivre pleinement notre vie en Jésus-Christ. Là où il sera, nous y serons. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et quelle grâce il nous a faite. Quelle grâce il nous a faite. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Alors le sacrifice de Jésus est expiatoire. Qu'est-ce que c'est ça pour une histoire? Expiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expiation est un acte par lequel tout est payé. La faute est payée. L'expiation, c'est payer. Payer la facture entière, on va dire comme ça. Payer des milliards d'euros qu'on aurait à payer à Dieu, une facture impayable. Hein, vous gagnez 1500 euros par mois, disons une bêtise, n'importe quoi, plus, moins, peu importe. Mais et vous devez des milliards, mais vous ne vous en sortirez jamais, d'accord? Et même Bill Gates, s'il devait 1 000 milliards à Dieu, de toute façon, il ne saurait pas payer ça, ce serait beaucoup de trop. Hein, pourtant, lui, il en a déjà plus que nous, vous savez. Mais il fait beaucoup de dons, pourtant. Mais c'est quelque chose d'impayable. Eh bien, Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés, il a payé. Et il a expié nos fautes, la faute, les fautes sont payées pour chacun de nos péchés. Dieu ne peut être amour sans être justice. Et ça, c'est important de se rappeler que Dieu est amour. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, et ils ont peut-être déjà deux verres dans le nez, Dieu est amour, alors voilà, Dieu est amour, c'est fantastique, hein, Dieu est amour. C'est une belle vérité, je trouve, extraordinaire. Mais si on oublie que Dieu est justice, on fait naufrage. Il est amour, parfaitement amour, mais il ne tolère le péché. Il peut pas tolérer le péché, c'est impossible. Il n'y a pas un seul péché qui entrera au ciel. Pas un seul. Pas le moindre petite cachotterie de nos cœurs n'entrera au ciel. Et quand Jésus est monté sur la croix, c'était pour expier, pour effacer la moindre motivation injuste de nos cœurs, les moindres pensées qui sont iniques devant Dieu. Dieu a tout pris, Jésus a tout pris. Et nous croyons pas que nous allons aller au ciel sans avoir confessé la moindre petite faute qui resterait encore. dans le fond d'un tiroir de notre vie. Nous avons à confesser tout, parce que Jésus a tout pris à la croix. Et tout est nu et découvert devant celui qui nous juge. Alors, nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit, mais simplement nous abandonner à lui. En acceptant de croire en Jésus dans sa mort, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs coupables, coupables devant Dieu. Coupables à 100%. On va pas accuser les autres ici. On va pas dire, ouais, mais c'est à cause de telle personne. S'il ne m'avait pas traité comme ça, j'aurais pas rendu la monnaie de sa pièce. Non, rien du tout. On va pas essayer de se déculpabiliser en accusant d'autres personnes. Nous sommes coupables par le péché. Point à la ligne. Et il faut s'avouer coupable. Romains, chapitre 1er, chapitre 2, eh bien, nous montre que tous ont péché. Que ce soit les juifs, que ce soit les non-juifs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et par un seul acte de justice, Dieu nous a justifiés. Dieu a payé le poids de toutes nos fautes. Ainsi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, Hébreux 2, 17, hein, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Son sacrifice est parfait et nous rend parfait jusque dans l'éternité. Extraordinaire. Il n'y a pas quelque chose à ajouter. Parce qu'il y a des religions où ils disent, oui, Christ a, d'une certaine manière, il a payé, mais à nous aussi de faire une autre part. Non, c'est Christ. Tout est accompli, a-t-il dit sur la croix. Il n'y a pas une part pour notre salut, c'est Jésus qui le fait, et puis une part, c'est moi qui dois le faire. Non, Christ a tout payé. Tout est accompli. Et donc, mon salut, je ne parle pas des récompenses. Les récompenses, bien sûr, là, il y aura des récompenses, ou il n'y aura pas de récompenses. Ça dépend un petit peu de la manière dont nous aurons vécu. Mais pour le salut, eh bien, c'est le tout accompli de la croix. Alors, par rapport à ça, nous pouvons exprimer notre louange, notre reconnaissance par une louange quotidienne. Tous les jours, devrions célébrer la gloire de sa grâce. Parce que c'est la grâce qui nous sauve. C'est la gloire de sa grâce. C'est extraordinaire. En trois mots, on manifeste l'étendue du pardon de Dieu, de la miséricorde divine, la gloire de sa grâce en Jésus-Christ. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jésus est la victime expiatoire qui expie toutes nos fautes. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Dieu a prouvé son amour par le pardon. À nous, à prouver notre amour pour Dieu en pardonnant les autres aussi. En demandant déjà pardon à Dieu, en se pardonnant soi-même. Parce que Dieu, si Dieu nous pardonne, à partir du moment où Dieu nous pardonne, on doit aussi se pardonner à soi-même. Hein? Parce que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. L'amour est lié au pardon. Alors, le sacrifice de Jésus est propitiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est propitiatoire. Propice. Ça veut dire que le propitiatoire, qu'est-ce que c'était? C'est le couvercle de l'Arche de l'Alliance qui était dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait l'Arche de l'Alliance, derrière le voile. Et le sang devait être amené une fois par an au milieu du propitiatoire. Le sang devait venir au centre du propitiatoire, là où était la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Et le souverain sacrificateur était même, on l'avait dit vendredi, attaché par une corde, si jamais il n'était pas en état de sainteté, qu'on puisse le sortir du lieu très saint. Et donc le péché, comme on le disait, était couvert jusqu'à la prochaine sacrifice. Mais quand Jésus est venu, son sacrifice a ôté le péché de nos vies. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, son sacrifice nous rend favorable, propice, favorable à Dieu. Son sacrifice, eh bien, est pleinement suffisant. C'est ça que ça veut dire. Propitiatoire, ça veut dire que le sacrifice est pleinement suffisant. Pleinement suffisant. Dieu ne demande pas autre chose. Le sacrifice de Jésus est pleinement suffisant, une fois pour toutes, pour l'éternité. Il n'y en a pas besoin de plusieurs. Un seul sacrifice nous rend parfaits devant Dieu pour l'éternité. Il nous rend saints devant Dieu jusque dans l'éternité. On le voit dans Romains 3, 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent. Donc, justice a été faite. Jésus devait mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il est mort pour nous. Justice a été faite. C'est le début d'une nouvelle alliance. Le testateur est mort. C'est au travers de son sang que nous avons l'héritage avec les sanctifiés, la vie éternelle avec Dieu, le pardon de nos fautes. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Extraordinaire. Quel Dieu extraordinaire. C'est la raison de notre communion avec Dieu quand nous nous approchons du trône de la grâce. Dieu nous reçoit et nous écoute favorablement, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de notre foi dans le sacrifice propitiatoire de Jésus. Lorsque Dieu pose le regard sur nous, c'est toujours un regard favorable au travers du sang de Jésus, le voile de sa chair qui a été déchiré. Et donc, Dieu nous regarde au travers du sang de son Fils. C'est extraordinaire, il nous aime tellement. Ce sacrifice nous rend propice, favorable. Il est pleinement suffisant. Alors, le sacrifice de Jésus est efficace aussi pour l'éternité. Efficace pour l'éternité. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et serons-nous sauvés aussi de la colère. Car si nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Voilà, c'est ce que nous avons lu, hein. Nous avons été sauvés de la colère. La colère, c'est sûr que Dieu est en colère sur le péché. Et donc, en mourant à notre place, la colère est tombée sur le Fils. La colère du Dieu vivant est tombée sur le Fils. Et il n'y a plus de colère pour nous. C'est extraordinaire. Extraordinaire de savoir que Dieu n'est plus en colère sur nos péchés. Il les a plongés au plus profond de la mer de l'oubli. Alors, nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés de la colère à venir, du jugement dernier, sauvés des peines éternelles de l'enfer. C'est extraordinaire. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, nous sommes amenés à la perfection. Nous sommes donc parfaits par le sang de Christ. L'alliance nouvelle est éternelle. La nouvelle alliance est éternelle. Il fera de nos ennemis son marchepied. Extraordinaire, nous pourrons marcher sur les puissances des ténèbres. Ton sacrifice, Jésus, est glorieux et efficace. Extraordinaire comme sacrifice. Alors, ce que nous devons nous rappeler, c'est que de la croix, la grâce coule. La grâce coule. Et nous voulons nous rappeler tout cela. Qu'est-ce que le sacrifice produit dans nos vies? Ben, il a pris d'abord notre péché sur lui, hein. Il a condamné le péché dans la chair en, Dieu a condamné le péché dans la chair en offrant son fils Jésus. Le sacrifice de Jésus est volontaire, à nous aussi, de volontairement offrir nos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le sacrifice de Jésus est substitutif. Il est mort à notre place. Le sacrifice de Jésus est rédempteur. Qu'est-ce que c'est rédempteur? Il nous a rachetés de l'esclavage. Il est expiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire l'expiation? Il a payé chacune de nos fautes. Il est propice. Ça veut dire aussi que ce sacrifice nous rend favorables aux yeux de Dieu. Et le sacrifice de Jésus est efficace pour l'éternité. Waouh! Extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de louer le Seigneur pour ça? Il faut déjà être fameusement, manquant de reconnaissance pour ne pas remercier un Dieu qui nous ouvre les portes, en fait. Les portes du ciel sont ouvertes. Voilà. Porte ouverte. Ah, ça, c'est un beau mot, ça. Porte ouverte au ciel. Hein? La porte est ouverte. On va pas se trouver au ciel. Oh, la porte est fermée. Zut, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a la clé. Non, la porte est ouverte. Ça, c'est extraordinaire. Ce sera peut-être fermé pour d'autres, mais ceux qui reçoivent la grâce, qui reçoivent le pardon de leur faute, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, la porte est ouverte. Comment est-ce qu'on peut pas remercier le Dieu pour une porte aussi grande, aussi largement ouverte? Mais ça lui a coûté tout. Alors ça va nous coûter aussi notre vie. Parce que si lui a offert sa vie, nous aussi, nous allons vivre notre vie pour lui. Et que ce soit par l'Esprit, afin de... j'aimerais bien de lire, si vous voulez bien, ensemble, un dernier verset. Donc dans Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'on pourrait le lire ensemble? Vous l'avez dans vos Bibles, j'espère. Oui? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais alors, il y a le restant du verset. Qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Oui. Donc, qui ne vivent pas selon leur nature, mais qui se laissent renouveler par l'Esprit et qui agissent selon l'Esprit qui est en eux, l'Esprit Saint. Et ça veut dire que nous n'avons pas à nous comporter comme autrefois, comme enfants de colère. Maintenant, nous avons fini avec le péché. Et nous voulons vivre pour le Christ. Lui, il a obéi parfaitement dans sa vie. Il n'a pas laissé le péché venir. C'était pas le dimanche matin, il se sanctifiait pour le dimanche matin, puis ou le samedi, hein, pour le du vendredi soir au samedi soir, pour le jour du sabbat. Hein, faut faire gaffe, c'est le jour du sabbat. Et puis après, allez, on prend ses petites habitudes et hop, chasse le naturel et il revient au galop. Non. C'est pas l'habit qui fait le moine, et c'est Dieu voit le fond de nos cœurs. Est-ce que nous voulons vivre en conséquence de ce que Jésus a fait? Et c'est une décision personnelle, c'est dire: Seigneur, je ne veux plus vivre d'après ta grâce, par rapport à la grâce que tu m'as faite, je veux plus vivre comme autrefois. Ce que j'ai vécu avant ma vie en Christ n'est plus ce que je vis pour l'instant. Je veux vivre pour lui. Et est-ce qu'on pourrait lire Galates 2, s'il vous plaît, verset 20? C'est important aussi qu'on puisse voir cela. Galates 2, 20. Parce que, sinon, je cite des tas de choses aujourd'hui matin. Oui, c'est vrai, hein, tout ça, je connaissais déjà, c'est bien. C'est formidable, c'est beau. Mais qu'est-ce que ça change à ma vie? Et donc, c'est très important aussi de réaliser, mais qu'est-ce que ma vie, Comment je vais réagir dans ma vie par rapport à ce message? Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Ah, quand Jésus est mort, il est mort pour moi, hein. Mais j'ai été crucifié avec Christ. Donc, ça veut dire que je réalise, je dois me souvenir. Je dois savoir. Je dois me rappeler. Je dois vivre en conséquence. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors ça, c'est un développement. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si j'ai été crucifié, si ma chair a été crucifiée, si mon moi a été crucifié, si j'en ai fini avec le péché, ceux qui ont souffert contre le péché, on en finit avec le péché. Quand on souffre dans l'obéissance, Jésus a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert parce qu'il obéissait pleinement au Seigneur et ça produit de la souffrance. Quand je laisse ma colère monter, quand je laisse les mauvaises habitudes du passé revenir, j'accomplis pas la volonté de Dieu. Et Dieu ne peut pas être d'accord avec moi. Bien sûr, Jésus est mort pour mes péchés encore actuels. Mais c'est pas pour ça que ma vie est nécessairement quelque chose de magnifique. Alors, ce que Dieu veut, c'est que ma vie soit magnifique. Et que j'apprenne à commencer à vivre comme Christ le demande. J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. À moi aussi de me donner moi-même pour lui. Et on terminera par Romains, si vous voulez bien, chapitre 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par les compassions, offrons notre corps. Jésus a offert son corps. Voyez tout le bénéfice que nous en avons. Et maintenant, Dieu veut avoir aussi un bénéfice. Parce que aussi, il y aurait une louange pour ceux qui ont bien travaillé. Qui ont été des artisans de paix, qui ont été des hommes et des femmes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dira un jour? Viens, bonne et fidèle servante, viens, bon et fidèle serviteur. C'est ça que nous voulons entendre. Et c'est pas une louange en l'air, non, c'est vraiment une louange que Dieu va nous destiner. Je suis une merveilleuse créature, c'est ce que Dieu dit aussi au travers de David, mais une créature qui va accomplir la volonté de Dieu, c'est encore plus beau. Je suis déjà une merveilleuse créature, mais si j'accomplis la volonté de Dieu, alors là, c'est beaucoup plus beau encore. C'est l'attitude intérieure, c'est les sentiments qui accompagnent le caractère du Christ en nous, et c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance, et c'est les fruits de l'Esprit. Et puis c'est la maturité chrétienne de persévérer et toujours accomplir, avoir le désir d'accomplir la volonté sur la terre. Cherche sa face, nuit et jour, instant après instant, et que nous puissions mourir à nous-mêmes, instant après instant, et laisser vivre le Christ en nous. Eh bien, nous allons demander au Seigneur de nous y aider. Que ce soit une Pâque de cette nature-là. Seigneur Père, nous voulons te remercier parce que tu as tout accompli à la croix. Et plus que cela, tu es ressuscité pour montrer que nous sommes justifiés au travers de la foi, de juste et celui qui croit est rendu juste devant Dieu. Mon juste vivra par la foi. Seigneur, tu es le sacrifice parfait. Le sacrifice qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix tombée sur toi, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as délivrés de la culpabilité.
Tu nous as délivré des mensonges de l'adversaire, de tous les mensonges que l'ennemi avait mis dans notre tête. Et tu continues à le faire si besoin est. Seigneur, tu nous libères, tu nous rends libres. Tu nous affranchis de toute servitude. Nos liens ont été coupés. Si il y aura encore un lien quelque part, tu veux le faire, tu veux encore accomplir. Nous te remercions, Seigneur. Nous voulons t'offrir notre vie, notre corps. Comme toi, tu as offert ton corps à Gethsémani. Nous voulons, comme Paul le dit dans Romains 12, offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de notre part un culte raisonnable. Seigneur, merci Jésus. Merci parce que tu vis en nous, c'est l'espérance de la gloire. Merci parce que tu as triomphé, tu es le Dieu triomphateur, tu es celui qui est le nom de la victoire et tu es en nous, Seigneur. Tu es cette victoire qui nous fait, oh Jésus, qui nous fait bouger les montagnes, qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Merci Seigneur, nous voulons avoir foi en toi. Tu vis en nous, tu es parmi nous. Tu es assis sur le trône et tu es aussi assis sur le trône de notre cœur. Tu es au milieu de nous ce matin et nous te remercions, tu es le ressuscité. Merci Jésus. Si deux ou trois personnes veulent, ils peuvent prier.